Je vous imagine dans votre cuisine mettant la dernière tâche à votre tablier ou en voiture pestant dans les rues embouteillées. Je vous imagine dans votre fauteuil devant la télé regardant en famille un énième téléfilm de Noël, chat, chien, tortue et poisson rouge venant peut-être se blottir ou ronronner contre vous. Et quand parfois le silence se fait dans la maison couverte des cris joyeux des enfants impatients, on entend, venant de quelque part dans la maison, une playlist de chants de Noël qui résonne. Je vous imagine peut-être seul, malade ou éloigné de vos familles, triste ou joyeux, mais où les mots, les gestes, les sourires de ce soir auront un goût différent des autres jours, laissant percevoir que celui qui a encore sa place vide dans la crèche est proche. Je vous imagine attendant le son des cloches qui dans quelques heures vont sonner, donnant ce signal très particulier, où les lumières des bougies sur la table dressée vont s'allumer, où la morosité laissera place au sourire et à la gaieté. Alors que l'on soit seul, en famille, malade ou en communauté, nous sommes tous appelés en cette veille de Noël à être dans l'espérance, dans la joie, une joie contagieuse à partager, que nous soyons chrétiens ou non, je vous invite à vivre ensemble cette soirée si particulière de solidarité, de fraternité. Mais trêve de bavardage, il est temps d'entrer dans la magie de Noël, jouer au bois, raisonner musette, bienvenue dans l'écho des solutions.
RCF, l'écho des solutions. Présenté par Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'écho des solutions en ce soir du 24 décembre. Un numéro un peu spécial puisque j'ai autour de la table un panel de magiciens, tous entrepreneurs du spectacle et de la culture. Et avec eux, justement, nous allons voir comment il est possible d'entreprendre dans le domaine culturel, mais aussi comment la magie peut entrer dans l'entreprise, que cela soit par des prestations de magiciens ou tout simplement dans le domaine de la formation continue. J'aurai le plaisir donc d'accueillir dans quelques minutes Alexandra Duvivier, qui avec son père Dominique sont des vrais entrepreneurs et qui, depuis plus de 30 ans maintenant, sont dirigeants d'un magasin de magie, d'un centre de formation, d'un café-cabaret, le Double Fond, et donc qui vont nous parler de leur métier. Et ils n'ont jamais oublié d'ailleurs leur premier métier qui est celui de magicien. Et Alexandra, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes accompagné de Philippe Depertuis, qui est un de vos collaborateurs et qui accompagne justement le développement de la magie dans le monde des entreprises. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et puis nous recevrons un jeune entrepreneur que peut-être vous connaissez si vous le suivez sur YouTube. Il a à peu près 1 million de followers. Donc peut-être que quelques-uns de nos auditeurs l'entendent. Il s'agit de Fabien Olicard. Bonjour Fabien.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va voir justement ce que c'est que ça veut dire d'être magicien, mais aussi entrepreneur. Et comment la magie, elle peut aller dans le monde de l'entreprise. Et puis au téléphone, on retrouvera d'ici quelques minutes un autre magicien qui est à Marseille. Il s'appelle Norbert Ferret. Il est manipulateur. Il est champion du monde de magie. Il a été sacré en 2003 à La Haye. Il est aussi président de l'association Magev. Ce sera nos 7 minutes pour changer le monde. On découvrira comment les magiciens s'engagent aux côtés des enfants malades. Et nous, on se retrouve tout de suite après cette virgule avec tous nos invités pour parler de magie et de magie dans l'entreprise.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir ce dossier cette semaine, c'est le 24 décembre. Je suis très heureux d'abord de vous avoir tous les quatre. Il y a Norbert Ferret, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes par téléphone. C'est vraiment un vrai plaisir que de parler de magie, d'une part parce que c'est une passion personnelle, et deuxièmement parce qu'on a toujours en tête cette image d'Épinal que l'artiste est dépressif, vivant dans une chambre de bonne, regardant mélancoliquement une corde qui pend en attendant des propositions.
Non,
c'est pas totalement vrai. Même si c'est un métier dur aujourd'hui, on peut être artiste et entrepreneur. C'est ce qu'on va voir avec tous nos invités. Merci donc à tous les quatre d'être ici. Norbert, il est bientôt au téléphone. Alexandra, on va commencer avec vous et avec l'entreprise qu'a créé votre père. C'est une histoire de famille que le Double Fond qui a commencé il y a 30 ans avec le rachat du magasin historique de la place parisienne qui est toujours d'ailleurs Mayette Magie Moderne, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Mayette Magie Moderne, c'est la plus ancienne boutique de magie du monde, 1808. Et mon père, quand il a commencé la magie, il avait 8 ans, et il achetait ses premiers tours dans cette boutique. Et après, la boucle s'est bouclée, il a racheté la boutique en 1991.
C'est là que débute l'entreprise familiale, on va
non,
dire.
Non, en fait, le vrai début, c'est le Double Fond.
C'est le double fond, ça commence
théâtre.
Par le Double Fond.
Bah oui, parce que le Double Fond, c'est il y a 30 ans, en 1988, le 1er juin 1988. Parce que papa a toujours pensé, cru, il n'en démordait pas, que la magie est un art. Mmh. Et qu'au même titre qu'on va voir une pièce de théâtre, on va voir un concert, on va voir des musiciens. Oui, on peut aussi aller voir un magicien sur scène. Alors, lui, son credo, c'est la magie de close-up, la magie rapprochée. Mais donc du coup, on peut aussi aller voir un magicien de close-up au double fond.
D'accord, très bien. Et vous, alors Fabien Olicard, vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes un artiste, hein, on vous connaît à la fois comme magicien mentaliste, vous remplissez les salles et dernièrement d'ailleurs l'Olympia.
Oui, oui, c'était un truc de fou ça.
C'est ça. Et en même temps, vous avez créé, depuis quasiment le départ de votre carrière, vous vous êtes autoproduit, vous avez créé votre société qui vous a aidé à finalement à porter votre métier.
Bah, en fait, j'ai créé ça par défaut, c'est-à-dire que si personne ne veut te produire, il faut bien que tu puisses aller travailler. Donc je me suis structuré dès le début, en fait, au départ par défaut, et puis après j'ai continué par choix.
Confort, ouais. Et par confort, c'est plus confortable de se produire soi-même?
Ah non, c'est pas un choix, c'est vraiment pas un choix, il y avait personne qui voulait me produire. C'est...
Oui, mais je veux dire, le fait de le prolonger, c'est aussi un confort après, a posteriori. Alors, maintenant,
en relisant... Je sais pas si c'est un confort, en tout cas c'est une décision qui m'était confortable, moi. Mais après, ça dépend aussi de son tempérament, de son envie, de son allergie à la bureaucratie, de plein de choses. Se produire soi-même, ça veut dire ne pas avoir la force financière que pourrait avoir un producteur, la force de frappe, mais ça veut dire par contre avoir le pouvoir de prendre chacune des décisions assez rapidement. En fait, il y a une espèce de circuit court dans les prises de décision.
Quand on décide, et on le verra peut-être un petit peu parce que c'est à presque 30 ans d'écart, mais quand on décide de s'autoproduire, on dit toujours je suis parti de rien. Moi, j'ai la preuve que c'est très compliqué de partir de rien. Comment est-ce qu'on commence à constituer le capital, les premières mises de fonds? Parce que qui dit production dit nécessité de pouvoir se loger et peut-être éventuellement de se louer soi-même un théâtre. Comment au départ se construit l'entreprise Fabien Olicard?
Bah avec rien, effectivement, avec rien du tout. Donc,
un peu de love money, des gens qui quand même
rien du tout.
Avec les premiers cachets.
Les premiers cachets, évidemment. Donc déjà, on est sa propre richesse. C'est-à-dire que sans avoir la vocation ou l'ambition d'aller sur une scène publique, au départ, on fait nos cachets en événementiel, sur les mariages, les choses comme ça. Ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, ça m'a fait vivre et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai appris énormément de choses sur tous ces types de publics-là. Et puis après, on fait en fonction de ses moyens. Donc, c'est-à-dire que j'ai cherché des premières co-réalisations. C'est-à-dire un théâtre qui va faire moitié-moitié sur les recettes avec l'artiste. C'est quelque chose qui fonctionne encore très bien dans les cafés-théâtres en France, à Paris comme sur tout le reste du territoire. Et donc on commence comme ça, comme n'importe quel artiste. En fait, on ne peut pas dissocier, d'ailleurs, je rejoins Alexandra complètement là-dessus, magicien, c'est être artiste, c'est une spécificité d'un artiste. Et donc tous les artistes ont la même problématique au départ. Ce n'est pas lié spécifiquement à la magie de ce côté-là. Sauf que les magiciens vont devoir peut-être un peu plus convaincre les théâtres et les cafés-théâtres que leur spectacle est quelque chose de familial, d'original, avec un fond aussi.
Et
c'est
sérieux.
C'est pas une blague.
À quel point, mais c'est une vraie entreprise. On a des salariés, on a des charges, enfin, on est comme tout le monde.
Du spectacle, de l'entreprise, on dit toujours, les artistes, c'est le... j'ai une tendance un peu à généraliser, mais c'est l'intermittence du spectacle, c'est que des indépendants. Est-ce que vos deux entreprises sont originales en termes d'entrepreneuriat, ou est-ce que vous connaissez d'autres structures, je veux dire structurantes et structurées, c'est-à-dire c'est pas juste un nom, une entreprise. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez trois collaborateurs, Fabien, qui travaillent en fixe pour vous, avec une trentaine d'autres collaborateurs qui par intermittence là agissent,
ou qui sont eux-mêmes des indépendants.
Ou qui sont les mêmes temps. Le double fond, c'est quoi? C'est une quinzaine de collaborateurs?
Absolument, c'est ça, c'est des salariés.
C'est énorme. Tout à
fait. Est-ce que c'est original?
Oui, je crois que ce qu'il y a d'original pour le double fond, c'est que la troupe... Parce que
c'est une troupe,
c'est vraiment une troupe, c'est un groupe, et elle existait déjà avant même le double fond. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de se voir, de travailler la magie. Moi, je connaissais Dominique parce que c'était mon professeur de magie. On se voyait tout le temps, on était tout le temps ensemble. En fait, c'était un peu une troupe, mais sans lieu, sans activité. Moi, je poursuivais des études qui n'avaient rien à voir. Enfin, bon. Et puis un jour, il a dit, j'ai envie de créer un lieu, j'ai envie de...
Donc Philippe, vous avez suivi Dominique dès le départ du double fond?
Oui, même avant le départ,
même avant
si
le
on
départ,
peut dire.
Ouais. Et ça n'a pas bougé en fait, la quinzaine, c'est toujours les mêmes depuis 30 ans il y a eu un peu de turnover au double fond?
Bah, ce qui turnover, c'est les serveuses, on a des serveuses. Qui, alors là, il y a un turnover.
Vous vous formez à la magie, les serveuses ou pas?
Pas du tout, pas du tout. Autrement, les piliers fondateurs sont toujours les mêmes, tous les collaborateurs sont toujours pareils.
Fabien parlait tout à l'heure de la nécessité de convaincre. Quand Dominique crée le double fond, alors on est 30 ans en arrière. Alors, j'ai envie de dire, il y a peut-être encore, j'ai envie de dire, la magie, entre guillemets, des cabarets qui ont quasiment, pour ainsi dire, tous disparu aujourd'hui. Il y a beaucoup de petites salles de spectacle, mais les cabarets aujourd'hui ont disparu. Il a encore peut-être ce sillage des cabarets, mais ça a été compliqué de convaincre des banquiers pour acheter le double fond.
Oui.
Pour le...
ouais. Mais vous imaginez, parce que
déjà, tellement de délire.
Voilà, t'imagines, Fabien, toi, t'as eu les problèmes, mais t'as une trentaine d'années. Mon père, c'est il y a 30 ans.
Non, c'est ça.
Donc t'imagines, il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur la magie à 30 ans.
Vous avez quoi dans votre cabaret? Des tours de magie? Oui, ben non.
Oui, parce que c'est ce que le banquier lui a dit. Alors ouais. Il lui a dit, alors voilà, on a un rendez-vous d'une demi-heure, très bien, qu'est-ce que vous voulez faire comme projet? Je veux faire un café-théâtre, on boirait un coup et puis on ferait de la magie, tout ça. Alors il tape magie sur son ordinateur, le banquier, et il dit, voyez? Le papa, il dit, non. Bah oui, vous voyez, il n'y a rien. Donc je ne peux pas vous prêter de sous sur quelque chose qui n'existe pas.
Et oui, parce que je n'ai pas de comparatif.
Bah voilà.
Donc j'ai pas de prise
et donc,
de risque.
Papa lui dit, bon, le rendez-vous qui devait durer une demi-heure dure 5 minutes. Il lui dit, écoutez, vous avez 2 minutes pour que je vous fasse un tour? Bah, de toute façon, oui, j'ai rien à perdre. Allez-y, faites-moi un tour. Papa lui fait un tour. Et le mec lui dit, ah, attendez, c'est quoi votre activité? Redites-moi. Et ben, on prendrait un verre et après on ferait. Ah, attendez.
Vous
bar,
faites un bar.
Bar. Bar. Ah, attendez, regardez, là j'ai plein de trucs. Et
oui,
là, il a prêté des sous, le blanc.
Il a prêté sur le bar, mais en fait, il a surtout prêté sur la force de conviction que peut avoir un tour de magie quand on se rend compte de la puissance que ça c'est peut ça. Avoir, bah en fait, finalement, ça l'a bouleversé. Sans ce tour de magie, qui est, en plus a été fait sans même vouloir le convaincre, hein. C'était joué. C'était juste lui montrer que la magie, quand même, il
c'est
maîtrisait,
sérieux.
Que c'était sérieux et qu'il y avait un vrai potentiel.
Et alors, on apprend, alors vous c'est une affaire familiale, avec, vous allez peut-être, enfin pour l'instant Dominique est toujours en place, il n'y a pas de souci, mais vous imaginez de transmettre, que Dominique vous transmette le flambeau quand il décidera de s'arrêter, vous-même peut-être de le transmettre à vos enfants?
Oui, enfin c'est déjà fait pour la transmission, en tout cas entre papa et moi, parce qu'on fait des spectacles en duo tous les vendredis au double fond, mais j'en fais seul tous les samedis, et puis ça fait 30 ans que je fais de la magie, donc si je veux pas reprendre le flambeau, il y a un petit problème dans ma carrière. Hein.
Et envie de le transmettre après la génération
enfants,
future.
Pourquoi pas, parce que pour l'instant ils ont 7 et 10 ans,
ouais.
Ils me disent qu'ils ont envie de reprendre, hein, bien sûr, hein, ils sont très chauds là-dessus, bien. Mais bon, je pense que c'est un peu tôt pour savoir.
C'est un peu tôt, ils s'intéressent déjà quand même un petit peu à la magie,
ils font des tours de magie,
avec
grand-père, avec maman, avec leur père, parce qu'on est un petit peu, voilà, tous, ils sont cernés par la magie. Mmh. J'espère que ça va polluer dans le bon sens.
Fabien, quand l'entreprise, se
Bonjour.
Quand l'entreprise se structure, vous disiez, vous aviez 3 personnes fixes, 30 personnes en intermittence. On apprend, quand on est à la base un artiste, un prestidigitateur, un magicien, comment on apprend le métier d'entrepreneur, de dirigeant? C'est quelque chose qui vous était peut-être naturel, ou c'est quelque chose que vous avez été obligé d'apprendre? Vous étiez obligé d'aller peut-être plus loin que votre naturel?
Non, c'est dans mes gènes.
C'est
j'adore
dans
ça,
gènes.
J'aime bien faire des fiches Excel, j'aime bien structurer. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pas un truc qui me déplaît en soi. C'est pas une passion.
C'est pas juste un fichier Excel, j'espère.
C'est ça.
Bah si.
Mais non, ça a été assez simple. Mais c'est le cas de pas mal d'humoristes que je côtoie. Il y a vraiment une espèce d'une génération d'artistes entrepreneurs, pas forcément que dans la magie. Je suis assez affilié avec les humoristes. Et même ceux qui sont produits ouvrent aussi leur boîte de prod en parallèle pour faire d'autres choses. Je pense que plus ça va, plus c'est simple de faire ça, parce qu'en plus on trouve l'information plus facilement aujourd'hui. J'imagine à l'époque de Dominique Duvivier, c'était pas si simple. Aujourd'hui, sur Internet, sur le site legi.gouv, sur les sites de création d'entreprise, les sites de management, les bouquins, etc., c'est assez simple de compléter les lacunes.
C'est ça, mais après, dans le management humain, c'est-à-dire qu'il y a des fois, vous avez 30 collaborateurs, 3 en fixe, il y a peut-être des fois où on doit faire le choix d'embaucher, de se séparer. Là, on reste dans l'interpersonnel, dans l'humain. C'est quelque chose qui vous est facile, ou que vous avez été obligé d'apprendre, ou peut-être d'aller au-delà de ce que vous êtes pour parce que vous avez une entreprise à faire vivre.
En fait, ça passe par le recrutement d'abord. Je passe énormément de temps à recruter. La dernière personne qui vient de rentrer dans les bureaux, l'avant-dernière personne, on a eu 6 mois à se rencontrer avant
de décider.
Parce qu'on touche quelque chose, par contre, qui est vraiment spécifique à notre activité, c'est qu'il y a aussi du secret dans notre travail.
Bien sûr.
Et moi, je ne peux pas au bureau tout cacher, tout verrouiller. Voilà, ça va être compliqué. Donc, il y a aussi une confiance à installer. Il y a une charte quand on travaille avec moi de loyauté, de secret, de choses comme ça et d'initiative. Et du coup, c'est pas... il y a une relation qui se crée, qui est intéressante. On sait vraiment avec qui on va collaborer, pour combien de temps. C'est assez simple. Et puis après, au quotidien, pour l'instant, je n'ai jamais eu à devoir arrêter avec quelqu'un en mode « il faut vraiment qu'on arrête ensemble pour des raisons personnelles ou économiques ». Ça s'est toujours fait quand même d'un commun accord. Les quelques fois où il y a eu des arrêts.
Et chez vous, il y a eu. J'ai cru comprendre que ça fait l'équipe de base, elle n'a pas tellement bougé depuis 30 ans.
Absolument.
Il y a eu alors, à part les serveuses, il y a eu des recrutements depuis où ça reste finalement la famille, quoi.
Oh non, mais c'est la famille, mais bien sûr, il y a des gens nouveaux. Et c'est ça qui est bien. Ça insuffle des choses intéressantes. Oui, bien sûr qu'il y a du recrutement, évidemment. Parce qu'il faut bien insuffler de la jeunesse, on n'est pas que des vieux.
Mais ça s'est fait naturellement.
Mais bien sûr, exactement.
On dit que déjà lancer une entreprise, c'est compliqué. Quand on lance une entreprise culturelle, est-ce que c'est doublement compliqué? Ou est-ce que finalement, une fois qu'on est structuré, et c'est un peu le message que j'aimerais entendre et faire passer aux auditeurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se structure, c'est presque plus facile qui d'aller voir les banquiers, qui d'aller voir une salle de spectacle, qui d'aller voir un organisme pour diffuser ce qu'on a à diffuser. Je vous laisse pour toi.
C'est-à-dire, quand ça fonctionne, après, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plus simple.
Est-ce que la structure rassure, en fait ?
Je suis pas sûr et certain. Je pense que ce qui rassure, c'est juste le nombre de contrats, quoi qu'il arrive. Qu'on soit vraiment non structuré ou structuré, c'est est-ce que ça tourne ? Est-ce que ça fait rentrer des sous ? Ça va pas plus loin.
Mais
que
oui,
ça.
Bien sûr, malheureusement.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Avec plus d'un million de followers sur YouTube, Fabien, est-ce que ça a donné une accélération à l'entreprise que vous dirigez?
Ça a surtout ouvert un nouveau pôle dans la boîte. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un monteur à plein temps. C'est assez récent d'ailleurs, c'est depuis le 1er novembre, mais je travaillais déjà avec lui, justement, toujours dans la même mécanique, depuis un an. Mais lui était encore indépendant et on ne faisait pas un full-time ensemble. Et depuis quelques mois, c'est plein temps. Donc, ça a ouvert cette activité-là en plus.
Mais un monteur de quoi?
Un monteur vidéo.
D'accord.
Ouais, un monteur vidéo. Parce que là, à un moment donné, en fait, dans les choses à déléguer, j'adore monter, j'adore réaliser, mais ça me prenait beaucoup trop de temps.
Hein.
Exactement.
Bah ouais.
Et puis, cette activité-là, qui du coup commençait à faire des vues, etc., appelle aussi des partenariats avec des marques qui veulent bénéficier, en fait, de visibilité. Donc, en fait, il a fallu prendre quelqu'un aussi pour gérer ça, parce qu'il y en avait trop par jour.
Ouais.
Certaines sont intéressantes pour le montant, d'autres sont intéressantes dans le projet, d'autres sont intéressantes simplement dans l'association qui a un message et que j'ai envie de me coller moi aussi à ce message et d'aider à le transmettre. Donc il fallait aussi quelqu'un pour ça, qui lui n'est pas à plein temps par contre. Donc voilà, ça a été un vrai secteur qui s'est ouvert et qui a donné une nouvelle dynamique à la société, mais qui était intéressante parce qu'elle n'était pas vitale pour la société. Mon métier pour moi, c'est d'être sur scène. Ma boîte, c'est du spectacle. Tout ce qui se fait à côté, c'est du bonus qui va servir d'une manière ou d'une autre le spectacle, si possible.
Est-ce que YouTube, à un moment donné, n'a pas cannibalisé peut-être l'artiste? Est-ce que ce n'était pas le risque?
Non.
Non.
Non, 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 jamais. En fait, ça, c'est une décision qui est toujours personnelle. Je n'ai jamais arrêté la tournée. La priorité, c'est d'être sur scène. Après, tout dépend d'où la personne va poser son œil dans le prisme. Moi, je sais que je suis encore 3 fois par semaine sur scène et je passe ma vie à écrire, à répéter, à essayer de trouver des nouveaux textes, des nouvelles mises en scène. Donc, ça reste quand même l'activité principale.
Alors, Fabien est sur scène à peu près toutes les semaines, vous aussi d'ailleurs.
Tout à fait.
Sauf que on Fabien fait à 2 maisons, le TGV, les voitures.
C'est clair.
Et chez lui.
Le TGV, c'est ma maison.
Et les hôtels, ça fait quasiment 4 maisons. Finalement, vous êtes un peu comme les gens du voyage, vous avez finalement, il y a 30 ans, décidé de vous sédentariser.
Oui, bien sûr.
Mais ce qui ne vous empêche pas de tourner quand même. Mais
exactement, c'était la gageure du double fond. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de café-théâtre, il n'y avait pas de théâtre dédié à la magie. Et c'est pour ça que papa a frappé du poing sur la table et s'est dit, pourquoi pas la magie?
Oui, parce que personne, en gros, voulait le produire de la manière dont il avait envie.
C'est ça.
Comme tu disais tout à l'heure, personne ne voulait le produire. Bah, alors voilà, personne ne veut me produire, bah, je vais acheter un théâtre.
Et quelle vitrine, parce que tout à l'heure, vous parliez des cabarets qui ferment. Moi, j'ai commencé dans les cabarets à Paris. J'ai joué très longtemps au Donka, Mao Panier, chez ma cousine, etc. Donc là où les cabarets humour et traditionnels ferment, je veux dire, on a le seul cabaret qui fait de la magie à Paris, qui est toujours là et qui est vraiment plus vivant que jamais, parce que plus ça va, plus on en parle, j'ai l'impression, dans les médias, plus j'entends sur les radios et tout, c'est génial, quoi.
C'est cool. Alors, justement, le deuxième prisme, là, on a vu un petit peu l'aspect entrepreneurial, mais comment est-ce que la magie rentre dans l'entreprise? Philippe, c'est vous qui portez un petit peu toute cette activité de formation au double fond. Comment justement, l'entreprise vient chercher, au-delà de simplement une prestation magique, vient chercher un magicien pour faire passer soit des messages, soit se former peut-être avec des techniques de magicien, être, je sais pas, de meilleurs commerciaux, de meilleurs managers, etc.
Moi, je dirais qu'on est tous des êtres hybrides. C'est-à-dire qu'on a tous un côté peut-être dans l'entreprise, où on est salarié, ou alors... Bon, bref, on a tout ça, mais on est tous des artistes, en fait. Mmh. On a tous cette double dimension. Donc, si on en étouffe complètement une, eh ben on ne se sent pas bien. Et moi, c'est ce que j'ai regretté au moment de mes études, études d'ingénieur, etc., c'est qu'il fallait choisir. On était ou littéraire ou matheux. Ou alors on était dans un monde sérieux, ou alors on était un saltimbanque. Et ces divisions, elles sont complètement absurdes. Mmh. Parce qu'en réalité, on a besoin de fusionner pour donner le meilleur de soi-même. Et ça, je crois qu'il y a quand même un mouvement qui existe, que les entreprises se rendent compte de ça, qu'il faut que les gens soient contents d'être là. On passe la majeure partie...
On parle beaucoup du bonheur au travail, hein, c'est vraiment la ligne directrice de ces quelques années dans le monde de l'entreprise.
Mais oui, et c'est une logique tellement évidente. C'est-à-dire que si on est content de faire ce qu'on fait, on le fait tellement mieux.
Mmh. Alors, vous avez vous avez deux choses. Vous avez une conférence qui s'appelle Influence et Perception, que vous proposez aux entreprises. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette conférence? Puis après, j'ai vu que vous aviez aussi une formation de communication Influence et Perception. Comment se situent les deux, l'une par rapport à l'autre?
Quand c'est la conférence, c'est simplement les mêmes thèmes qui vont être abordés, mais en plus court. Et quand c'est la formation, là, on a vraiment le temps avec les gens pendant deux jours de leur faire faire des tours de magie. Mmh. Et au travers des tours de magie, ils vont très vite comprendre certains mécanismes. Parce que nous, comme dans les boîtes, comme n'importe quel professionnel, il y a une expertise technique à avoir. Mmh. C'est-à-dire, si on n'a pas la bonne technique, il faut être honnête, le tour, il ne va quand même pas marcher. Hein. Mais si on fait ce qu'il faut, le tour, il va marcher. Mais si le tour marche et fonctionne, ça ne suffit pas. Mmh. C'est loin de suffire. Il faut après réussir à créer le contact avec les gens. Il faut réussir à les embarquer dans un rêve.
Et c'est ça que vous apportez à l'entreprise, c'est finalement créer le contact et embarquer.
C'est ça qu'ils ont besoin, c'est ça qu'ils font avec leurs collaborateurs.
Ça.
Il faut bien qu'ils convainquent un public. C'est plus un public, mais c'est des collaborateurs d'un nouveau projet. Mmh. On leur fait une piqûre de rappel parce que ils en savent des choses, mais après on oublie, on n'ose pas, on fait
c'est
pas.
Ça. On fait pas.
Combien de fois? On entend dire, il y a des gens, ils sont très très forts, ils sont vraiment balèzes dans leur boulot, dans leur job, mais ils sont incapables de le faire passer. Mmh. Ou alors ils sont techniciens, ils sont matheux, mais alors quand ils parlent à des non-matheux, personne ne comprend rien. Mmh. Et il faut réussir à faire ce pont. Et nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, sur scène. Et c'est ça le management. Nous, dans notre jargon de magicien, on dit qu'il faut manager le public. Mmh. Bon, c'est notre jargon, mais ça veut dire que...
Il faut les embarquer, en fait.
Il faut les embarquer, il faut être avec eux, et ils n'ont pas à savoir que c'était difficile de faire ce tour. Tout doit sembler facile, simple.
Et contrairement à des managers traditionnels, vous managez un public différent tous les soirs.
Ah bah oui.
Oui, c'est vrai, c'est la différence.
Et vous ne les connaissez pas forcément quand...
On ne les connaît pas du tout.
On ne les connaît pas du tout, mais il faut apprendre très vite à les connaître.
Ouais. Fabien, justement, vous intervenez, vous aussi, dans le monde de l'entreprise. Vous donnez dans vos livres, etc., des éléments pour percevoir si la personne ment, etc. Vous pouvez aussi intervenir dans le monde de l'entreprise pour aider, finalement, les gens à se positionner et à savoir percevoir si on est dans un dialogue en vérité ou non.
Alors, je l'ai beaucoup fait il y a quelques années, je le fais moins maintenant, ça c'est vraiment un manque de temps, mais j'en fais encore un petit peu parce que ça m'amuse beaucoup et ça me passionne, mais j'aime bien faire du sur-mesure si j'ai quelque chose à apporter, sinon je renvoie vers des collègues.
C'est intéressant.
Voilà, c'est ça. Après, je donne encore des conférences, ça c'est vraiment pour le plaisir, là j'en ai une prochainement à Lyon, j'en refais une. Dans mes passions, qui sont pas déconnantes en fait, c'est pas dissonant, dans mes passions, il y a toujours eu depuis petit... La magie, avec tout l'illusionnisme, les sciences cognitives, l'astrophysique et la mémoire. Ne me demandez pas pourquoi, mais je ne trouve pas ça déconnant que ces quatre pôles-là...
Ouais, non, mais je interagir.
Et souvent, voilà, souvent, quand je parle avec des magiciens, si on se met à parler d'astrophysique, on se rend compte qu'en fait, on aime un peu tout ça. Bon, ouais. Nous, on aime comprendre un peu tout ce qui se passe d'un point de vue global.
Et on aime le mystère.
On aime le mystère. Et donc, mes conférences sont portées là-dessus. Où il n'y a pas de tour, la conférence elle commence par voilà, quand je suis sur scène, tous les coups sont permis pour vous bluffer. Mmh. Aujourd'hui ça va être un petit peu différent, on va parler des choses que je peux moi maîtriser ou apporter, et là on va plutôt parler des sciences cognitives, du mental, de la mémoire, de la zone de confort, mais on va retrouver, comme disait Philippe, toutes les notions de communication, de management, de...
Communication non-verbale, etc.
Communication non-verbale, pas tant que ça, mais un petit peu, mais pas tant que ça, parce que, en fait, ce qui est intéressant, on parle souvent de décrypter l'autre, ce qui est intéressant, c'est sa propre communication non-verbale. Mmh. Celle-ci est très intéressante, c'est exactement ce qu'on voit sur scène avec un metteur en scène, quel message on envoie, comment on devient grand sur scène, comment on est sûr de soi, comment, avec juste un mouvement d'épaule, on va paraître timide, on va paraître plus triste, etc. Mmh. Comment on peut se maîtriser et connaître son corps et connaître les messages qu'il envoie.
Philippe.
Oui, là-dessus, c'est important. Et nous, ce qu'on a à leur dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler de ces sujets-là, très très bien, hein. Il y a des théoriciens de tous ces domaines, mais nous, on va aborder les choses d'un point de vue pratique.
C'est
parce
ça.
Que connaître plein de choses sur la communication non-verbale ou lire des bouquins épais comme ça sur le sujet, parfois, après, on en sort, on n'a rien appris. On n'a rien retenu.
C'est ça.
Alors que si on fait un tour de magie, même une fois ou deux fois, dans le cadre des formations, et ben là, très très vite, on comprend.
Mais c'est tout ce que vous expliquez dans vos ouvrages, Fabien Olicard, le fait de mémoriser à la fois par le geste, par l'image.
Exactement.
Et c'est comme ça qu'on apprend mieux, en fait.
C'est la mémoire épisodique. Quand Philippe fait un tour de magie, il y a une émotion très forte qui se crée. Donc ça rentre dans la case des souvenirs épisodiques. Et en plus, c'est imbriqué par l'émotionnel. C'est-à-dire que le message qu'il voulait faire passer derrière, s'il a été clair et vulgarisé, on va dire, alors il sera marqué au fer rouge. Quoi. C'est exactement ça.
Et ce qui est très intéressant pour pratiquer un petit peu, c'est que quand on a un vrai texte et qu'on n'a pas fait le tour pendant 3, 4, 5, 6, 8 mois, le fait de reprendre les 2, 3 premiers mots du texte, finalement, les gestes et la technique va revenir. C'est ça, Alexandra?
Absolument. Il y a une espèce de mémoire mécanique qui se met en branle et puis ça revient.
Alors, comment vous trouvez le juste milieu avec le monde de l'entreprise pour à la fois ne pas dévoyer vos secrets et vos tours tout en leur expliquant des tours? Il y a quand même un petit peu. Il y a
des choses ça va, comme tout est sur des YouTube, tours de magie. Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il y en a tellement
a
des tours de magie.
Oui, c'est ça.
Et puis en plus, il y a quand même différents niveaux. Mmh. C'est-à-dire, quand on a les gens de jour, on ne va pas leur apprendre des tours hyper sophistiqués qui nécessitent 6 mois de travail ou plusieurs années. On leur apprend des tours faciles. Ce qui compte. C'est après, ça y est, maintenant vous avez compris le tour. Et même un tour facile, au début, c'est pas si simple à intégrer. Et maintenant, il faut se détacher de ça et il faut le porter. Mmh. Et voilà, ça, c'est vraiment les sujets qu'ils ont dans l'entreprise. Vous avez
de
la technique, vous avez... Oui, bien sûr.
Oui, parce que le but du jeu, c'est pas de les rendre magiciens. On veut pas qu'à la sortie de cette formation de 2 jours ou 1 jour, ou peu importe, qu'ils deviennent magiciens. C'est pas du tout le but. Mais c'est qu'ils prennent nos techniques pour les adapter à leur milieu. Point.
Point. Alors, mes auditeurs, c'est la soirée de Noël, c'est magique. Je suis en dialogue en même temps. Je vais vous expliquer des secrets de magie, de fonctionnement d'une radio. J'ai Pierre-Henri qui est juste
aussi.
En face de moi, qui est en train de me parler en même temps des sujets importants sur le temps qui nous reste, en fait.
Sur le temps qu'il fait.
À nos auditeurs, c'est la magie de la radiodiffusion. Eh bien, le point, vous le mettez au bon endroit, Alexandra. On va tout de suite retrouver notre expert en management, justement. Il s'agit de Maxime Dupont, et puis c'est sa chronique expert. Et on se retrouve tout de suite après Norbert, pour le retrouver pour ses 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, il est temps de retrouver le fameux Norbert dont on vous parle au début de cette émission. On l'a réussi à le retrouver grâce à la magie de la technologie moderne qu'on appelle le téléphone. Bonjour Norbert Ferré.
Bonjour Patrick Longchamp.
Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, on parlait avec vos confrères magiciens, Alexandra Duvivier et Fabien Olicard, justement, de ce qu'était la magie, de la place de la magie dans le monde et dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Vous, Norbert Ferré, vous êtes magicien, vous êtes manipulateur, vous êtes vous-même Grand Prix, c'est-à-dire champion du monde de magie. Si je ne m'abuse, c'était en 2003 à La Haye, en manipulation. Vous tournez à travers le monde avec avec votre numéro, mais quand vous avez un peu plus de temps, vous êtes aussi présidente d'une très belle association qui s'appelle MAGEV, Magie Enfant Rêve. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association qui propose, je crois, des spectacles de magie dans les hôpitaux ?
Absolument. MAGEV a été fondée en avril 2001 par un homme remarquable qui s'appelle Pierre Mougel. Et j'ai repris, moi, le flambeau de cette association en 2012. Et en effet, cette association offre dans la France entière et également dans les DOM des spectacles de magie dans les hôpitaux. Alors, dans les hôpitaux, les centres thérapeutiques, les orphelinats, les villages d'enfants, les centres de rééducation. Et à ce jour, on a offert à peu près 750 spectacles de magie avec décor, son et lumière.
Alors, qu'est-ce qui avait un petit peu initié cette idée du fondateur de MAGEV à créer cette association ? Il avait été lui-même touché, soit par un enfant, soit par un proche qui était hospitalisé ?
Absolument, c'est exactement ça. Il a été hospitalisé il y a quelques années, dans les années 2000, et cet homme qui était passionné de prestigitation, mais qui avait mis ça de côté, il était devenu entrepreneur, et lorsqu'il a été hospitalisé, il s'est promené dans les couloirs, et il a vu ses enfants qui étaient sur leur lit d'hôpital, et en fait, ça l'a totalement touché. Il s'est souvenu qu'il adorait la prestigitation, et il s'est dit, pourquoi ne pas me remettre à la magie, puisque
c'était sa passion,
à rentrer dans la retraite, absolument. Mmh. Pourquoi ne pas se remettre à la magie et leur offrir une part de rêve. Et c'est ainsi que l'association MAGEV a démarré, avec d'abord à la base Pierre Mougel qui intervenait dans les hôpitaux. Ensuite, il a contacté d'autres magiciens. Et là, maintenant, aujourd'hui, nous sommes une équipe de 16 magiciens qui parcourront la France et les DOM pour offrir ces spectacles de magie.
Alors quand vous dites offrir des spectacles de magie, souvent quand on parle magie à l'hôpital, on imagine des magiciens qui vont dans les chambres des enfants ou des clowns qui vont dans les chambres des enfants. Vous avez pris le parti un petit peu plus inverse, c'est-à-dire vous investissez l'hôpital et vous faites un vrai spectacle où on fait venir tout le monde auprès du spectacle, c'est ça ?
Absolument, absolument. Nous, la plupart du temps, les spectacles sont directement donné soit dans les amphithéâtres de l'hôpital, soit dans des grandes salles, et nous arrivons avec décor, son et lumière, et les enfants qui peuvent se déplacer, on essaie de recevoir un maximum d'enfants, et en effet ce sont les enfants qui viennent au spectacle. Mmh. L'association MAGEV n'intervient pas directement de chambre en chambre, il y a d'autres associations comme Magie à l'hôpital qui le fait et qui le fait très bien. Là nous avons pris nous le parti d'intervenir directement dans les salles avec décor, son et lumière.
Est-ce que ça veut dire que les magiciens sont bénévoles, ceux qui interviennent, ou est-ce que justement il y a une rémunération aussi pour dire finalement les dons qu'on va recevoir vont servir à la fois à monter ces spectacles mais aussi à rémunérer le travail des magiciens ?
Alors en effet, les magiciens sont rémunérés chez MAGEV, ils sont rémunérés ils font quand même un bel effort sur le tarif, et les dons nous permettent justement de pouvoir rémunérer ces magiciens et de pouvoir développer l'association. Nous avons pris ce parti pour justement ne pas avoir de véritables soucis dans l'organisation. À partir du moment où les artistes sont rémunérés, nous avons un contrat et un engagement avec eux. Mmh. Et ça a été beaucoup plus simple et ça a été fait ainsi depuis 2001. Mmh.
Alors justement, donc 700 spectacles, il y a une équipe, je suppose, qui travaille. Elle est composée de combien de personnes ? Qui est-ce qui travaille à organiser tout ça ?
Alors nous avons une permanente. Nous avons une permanente qui s'appelle Corinne Magot, qui est une femme extraordinaire et qui s'investit beaucoup pour l'association MAGEV. Et ensuite, nous avons une équipe de bénévoles. Et vous savez, c'est toujours très difficile parce que nous avons des bénévoles qui sont proches de l'association et qui travaillent, je dirais, ils sont au nombre peut-être de 3-4. Voilà. Et ensuite, nous avons d'autres bénévoles qui, eux, interviennent directement lors de nos opérations. On a différentes opérations qui se déroulent pendant l'année, que vous pouvez retrouver sur le site MAGEV.
Alors, entre autres, là vient de se terminer une grande opération paquet cadeau. On en a un petit
Absolument.
Peu parlé dans l'actu des solutions qui permet justement de récolter des dons. Il y a d'autres opérations qui sont organisées pendant l'année ?
Alors, il y a une autre opération qui est importante, là, qui aura lieu le 16 juin à Lyon et Bordeaux, qui s'appelle la course des héros. Mmh. Ce sont nous recherchons chaque fois des coureurs. Lyon aura lieu, Lyon, ce sera la deuxième fois que nous le ferons, c'est le 16 juin. Bordeaux, c'est la première fois que ça existe, ce sera également le 16 juin. Et il y a Paris, où ce sera la troisième fois que nous participons à la course des héros, et ce sera le 23 juin 2019. Et on peut retrouver toutes les informations sur magef.fr.
Alors, la course des héros, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on achète un dossard et le coût du dossard va permettre de financer Magef ?
Absolument. Mais en fait, chaque coureur s'engage à collecter un minimum de 250 euros de dons au profit de l'association Magef, Magie Caritative. Et là, ces 250 euros, c'est organisé directement par la course des héros. Hein. C'est l'un des événements caritatifs, probablement l'un des plus importants en France.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, dans cette course des héros, il y a plusieurs associations et chaque association recherche en fait des donateurs pour courir sous son étiquette.
Absolument. Et on demande donc aux coureurs de solliciter leur entourage, la famille, les amis, les collègues, qui eux vont sponsoriser leur démarche en faisant donc un don directement en ligne. Ensuite, bien sûr, ils recevront un reçu fiscal. Et ensuite, il y a trois formats qui sont adoptés à tous les niveaux, soit 2 km de marche ou de course, 6 km de marche ou de course, ou 10 km de course. Mmh. Et là, pour la première fois, la course des héros ouvre cette année à Bordeaux. Alors, on recherche aussi des coureurs,
dans le Bordelais.
Bordeaux et Paris, bon,
après,
bien entendu.
Après, s'ils ne sont pas dans le coin, ils peuvent toujours, bien évidemment, faire le trajet pour venir rejoindre une course à Lyon, Paris ou Bordeaux. Les besoins financiers de Magef, c'est quoi ? Vous avez besoin, le coût d'un spectacle dans un hôpital, c'est combien à peu près ? Et combien il vous faudrait pour pouvoir en faire davantage ?
Alors, nous sommes toujours à la recherche, bien sûr, de dons parce que nous recevons de façon exponentielle les demandes de spectacles, que ce soit dans les hôpitaux. Là, actuellement, aujourd'hui, par rapport à ce que nous recevons et par rapport au coût qu'a l'association, un spectacle nous revient à peu près dans les 800 euros. Mmh. Donc, 800 euros, c'est ce que nous payons avec toutes les charges, bien sûr, et en ayant également notre permanente qui travaille bien sûr pour Magef toute l'année. Voilà, et ensuite, bien entendu, comme je vous dis, on reçoit une quantité, mais on ne peut pas répondre à tous.
C'est une quantité impossible. De demande absolument.
On essaye pour l'instant de faire quasiment un spectacle par semaine.
Et
aujourd'hui, on a visité 256 établissements et parcouru 201 villes de France.
Et comment vous sélectionnez un établissement ? La proximité, le fait qu'elle n'en ait pas bénéficié, le fait que...
Absolument. Le fait qu'il n'en ait pas bénéficié, la proximité, les demandes, également les rencontres, quelques établissements où nous y allons aussi au moins minimum deux fois par an. Mmh. Ça, ils sont nombreux aussi. On a ces mêmes établissements. Et ensuite, comme je vous dis, on reçoit aussi de très nombreuses demandes tout au long de l'année, avec bien sûr, à cette période du mois de décembre, des demandes plus importantes.
Bien évidemment.
Parce que les hôpitaux sont à la recherche de spectacles.
Merci beaucoup, Norbert Ferré. On peut retrouver toutes les informations concernant Magef sur votre site internet magef.fr. On vous souhaite de très, très belles fêtes de Noël, Norbert. Nous, on retrouve nos amis. On vous laisse parce que je sais que vous êtes très occupés. On vous laisse et on se retrouve, nous, avec nos invités, Fabien Olicard et Alexandra Duvier, pour clore cette émission.
L'écho des solutions, RCF.
Voilà, il est temps de conclure cette émission avec tous nos invités rapidement parce qu'il nous reste très 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 peu de temps. Alexandra, c'est quoi l'actu du double fond ? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à nos auditeurs pour Noël ?
Oh là là, ça fait beaucoup à dire. Attends vite, l'actualité. Oui, on a un nouveau spectacle avec papa qui s'appelle Signature. C'est tous les vendredis soirs au double fond. Le samedi, je joue un nouvel opus qui s'appelle Secret de fabrication. Alors, qu'est-ce que je pourrais souhaiter ? Tellement de choses et en même temps, on a très peu de temps, mais du bonheur évidemment, la santé, je crois que c'est le plus important, et d'être un petit peu plus... Tiens, s'il y avait plus de civisme en voiture, ça serait un peu plus cool. Que dire de plus ? Attends, j'ai pas assez de temps, je me stresse là. Mais voilà, surtout
Philippe.
La santé.
Eh bien, c'est un moment magique déjà pour ces soirées de fin d'année, et puis une année 2019 qui soit magique, qui est quand même de la magie, on peut la trouver.
Et pour vous Fabien, une année sur les chapeaux de roue, sur les routes TGV ?
Oui, c'est ça. On peut me retrouver un spectacle dans toute la France, Suisse et Belgique, et puis
sur YouTube.
Et puis voilà, si vous avez été en retard pour vos cadeaux, il y a mes livres en librairie. N'hésitez
pour les
pas,
étrennes, c'est bon. Il reste 7 jours pour les étrennes du mois de janvier.
Et mon grand espoir pour 2019, c'est vraiment qu'on ait un virage écologique important. Ça, c'est
On recevra peut-être justement sur cette question de l'écologie. On sortira de la magie, quoique la planète est magique et il faut savoir en découvrir ses secrets. Merci, belle fête. fêtes de Noël à vous tous. Je vous souhaite un très très bon soir de Noël. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera le Presse Club des journalistes de Solutions et on reviendra sur toute cette année 2018. À très bientôt, bonne soirée à tous.
Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand.
Ooh, and we're gliding along with the song of a wintry fairy land.
Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozier. We've got a da, snuggling up together like the birds of a feather would be. Do-do-dee-da, da-da, rope before us and sing a chorus or two. Do-do, but I come on this lovely weather for a sleigh ride together with you.
Do-do-boo-boo-boo, yeah. Giddy-up, 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 let's go. Let's look at the show. Oh, yeah, we're riding in a wonderland. That's no.